Mira. Tu vas sentir quelque chose là, tu loues. C'est ce côté qu'il faut regarder.
À l'œuvre. Comment se crée une œuvre d'art, une pièce de théâtre ou de danse? Dans cette chronique, des artistes ouvrent les portes de leur atelier et de leur univers. Aujourd'hui, rencontre avec Bianca Bondy, plasticienne, au Temple du Goût à Nantes.
Alors, je suis née en Afrique du Sud, mais j'ai fait mes études à l'école de Beaux-Arts de Cergy. Et en fait, ça fait 15 ans que je suis en France. Et, j'ai fait des études d'art déjà en Afrique du Sud et ensuite en France. Toujours dans le but d'un jour diriger un centre d'art. Et voilà, et finalement, je me suis retournée vers une carrière dans l'art plastique. Je dis toujours que mes sources d'inspiration pour créer une œuvre, ça vient de ce que je viens de créer. En fait, c'est comme si c'est un dialogue en continu. À chaque fois que je monte une pièce, et vu que mes pièces sont en site spécifique, ce sont des grandes pièces avec beaucoup d'enjeux. Et à chaque fois, il y a quelque chose que je découvre dans la matière, dans les interactions, les réactions, et ça inspire la suite. Après, je suis bien sûr toujours inspirée par les lieux où je suis invitée à exposer, que ce soit l'architecture, surtout son histoire, son passage dans le temps, les vécus de l'espace, l'énergie de l'espace, et aussi des détails comme le passage de la lumière, le temps qu'il fait. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est cet point de convergence entre les sciences physiques et les sciences occultes. C'est là aussi que j'appuie, je puise mon inspiration. Je regarde des vidéos, ça peut passer par la lecture. Par exemple, mon exposition au Temple du Goût, qui s'appelle The Faint House of Yes, il y a un des pièces qui est une chambre de nuit, sauf que c'est une chambre du jour, avec un lit rond en plein centre. Et il y a une boule de voyance qui est au centre de ce lit, sauf qu'elle fait une pression et donc il y a on sent le poids et tout ce qui est tiré vers ce centre. Et en fait, ça, c'était inspiré par des vidéos qui montrent la force gravitationnelle des planètes, sur les planètes. Et après, je tenais à montrer ça dans cette pièce parce que j'étais frappée par les très grandes hauteurs des portes d'entrée et de sortie, qui sont à 4,5 mètres. Et du coup, je voulais qu'on ait cette regarde qui est tirée en haut et aussi plongée en bas. C'est pour ça qu'on a ces rideaux très longs qui couvrent tout l'espace. Et ça nous entoure et après, à un moment, on voit une trace d'eau qui n'est plus là sur les rideaux. Donc c'est une trace salée toute la fin des rideaux est cristallisée. Et donc, c'est vraiment un jeu de regard, ça joue avec l'attention, c'est... Oui. Alors, je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à la matière même. Donc, dans cette exposition, il y a 5 tableaux, on peut dire, 5 tableaux qui sont à chaque fois une pièce où une matière domine. Et j'avais fait un rapport avec chaque matière et un besoin essentiel, comme se laver, se nourrir, rêver, protéger, manger, nourrir. Et à chaque fois, c'est aussi un rapport avec une salle de la maison, une pièce de la maison. Là, on est dans la pièce des plantes médicinales. Donc, c'est une pièce qui c'est là où on boit. Donc, je l'ai fait comme une sorte de tea house. Donc, c'est on peut dire la cuisine, en fait, parce qu'on n'a que des plantes aromatiques au plafond. On a de la verveine, basilic, romarin, la lavande, de la coriandre, du laurier, et après on a des petites pots sur cet autel qui font penser à des libations. Donc on trouve la pollen d'abeille, le turmeric et du sel, et en fait ce sont des antibiotiques la plus puissante de la nature. Donc, je dirais ça, c'est la cuisine. Bien sûr, c'est pas à apprendre littéralement, mais c'est... Voilà. Le sel, c'est une matière que je travaille depuis, on peut dire même 12 ans, voire plus. Et c'est une matière qui a beaucoup d'importance pour moi. C'est une histoire d'amour pour beaucoup de raisons. Et donc, même quand j'essaie de m'éloigner, c'est toujours présente. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est la clé du tout. On sait très bien que sans le sel, la vie n'est pas possible. Donc, mais après, trop de sel, ça tue. On a tous... un niveau saline dans notre corps, un parfait équilibre. Et donc, cette sel, ça s'appelle spirit food. Donc, c'est là où on va pour se nourrir. Bien sûr, quand on dit qu'on est inspiré par les sciences occultes et les sciences physiques, on ne peut pas oublier la chimie. Et pour cette exposition, c'est un petit peu différent de ce qu'on pourrait voir d'habitude dans mon travail. C'est-à-dire, normalement, on a la matière qui change devant les yeux. Les pièces sont préparées du début à la fin. Et en fait, ici, j'ai essayé de montrer autre chose. C'est une transformation plus subtile, ça va au-delà du visuel. C'est-à-dire que chaque pièce a des matières qui ont un potentiel de transformation. Des graines qui sont plantées, le cirage sur tous les meubles, le sel, l'eau. Et en fait, cette transformation, c'est un peu comme la quête des alchimistes qui essayent de transformer les métaux en or, sauf que cet or, c'est une transformation de soi. Donc après, c'est aussi une exposition qui, comme je dis, c'est hors-delà du visuel. C'est plus dans c'est les ondes, c'est le ressenti. Il y a plein d'odeurs différentes, il y a des bruits, il y a aussi le silence. C'est une exposition qui apporte le calme, qui est propice à la réflexion. C'est plutôt quelque chose qui se visite seul, où on prend son temps. On ne peut pas forcément s'asseoir, donc ça demande aussi qu'on déambule, qu'on fasse une balade et qu'on revient. La salle de la cire d'abeille que j'ai appelée The Hearth, c'était la salle la plus étroite. C'est un couloir avec une rampe et les murs sont d'une couleur chair, c'est en dessous de la peau. Et si on regarde le titre, The Hearth, ça veut dire le foyer. C'est vraiment le noyau de la maison, la partie la plus chaude, la partie familiale. Et en fait, on a une table et une chaise qui font très théorie, templesque. Et deux vasques, des amphores qui contiennent des amarantes et du blé, des plantes... de fertilité. Et après, on a un veste et un chapeau qui sont suspendus par-dessus au mur. Tout est couvert de cire d'abeille. C'est une pièce qui est extrêmement fragrante. On a aussi du miel qui coule sur les vases, sur les tables, de la pollen d'abeille. Et c'est vraiment une pièce où je voulais qu'on se sente pas à l'étroite, mais en confort. On est bercé dedans. Et surtout, on est prise par cette odeur. Et bien sûr, quand on pense à l'abeille, on pense à la reine, on pense aux soins, on pense à la protection. Et ça, c'était la salle où le mot protection est clé. J'ai un atelier qui est en banlieue sud parisien. Je suis à Châtenay-Malabry. C'est à côté de Clamart et en fait, j'ai tendance à dire que j'ai pas vraiment une pratique d'atelier parce que je suis quelqu'un qui est surtout process-based et que les choses se passent sur place. Je tiens vraiment à que toutes mes matières, tous mes objets soient choisis et fournis et trouvés localement. Donc j'avais tendance à dire ça et jusqu'à ce que je me rends compte que en fait c'est un peu faux parce que je suis toujours dans cette dimension écologique de mon propre travail, c'est-à-dire que je montre et je monte ces expositions, mais à la fin il y a certains objets qui sont recyclés, certains qui me reviennent pour que moi je les recycle dans d'autres pièces. C'est pas un énorme atelier, mais il y a quand même des choses qui se passent, mais je dirais surtout c'est des expérimentations. Sur une petite échelle pour ce qui pourrait se passer à une grande échelle, et après c'est la mise en œuvre des fragments des œuvres existantes. Oui, je fais très peu à distance et c'est vraiment des expérimentations, et comme je dis, ce qui est excitant pour moi c'est que je travaille aussi avec la qualité de l'air et la lumière et ces choses-là qui ont un impact direct sur la matière. Donc, on peut faire que jusqu'à un certain point à distance. C'est vraiment important pour un artiste d'avoir une pratique d'atelier pour simplement prendre du recul, pour tester d'autres choses et de pas toujours devoir montrer quelque chose avec des yeux qui le regardent autre que l'artiste. Donc oui, j'essaie de faire ça aussi un maximum. J'essaie aussi de, c'est nouveau, mais prendre des week-ends et ne pas faire de l'art. Et de nourrir des balades, de la lecture, de la vie de famille. Ça fait partie aussi de la pratique d'atelier, mais hors atelier. J'essaie de lire plusieurs choses, à la fois des livres écrits par d'autres artistes, des livres sur la vie des artistes, sur la lecture plutôt de théorie aussi, sur la philosophie, enfin, ça va de un peu de tout aussi, des choses plus, un peu de tout, à vrai dire. Et ce matin, mon dernière acquisition, c'est Maupassant, L'Orla, parce que je ne le connaissais pas. Donc, il y a quelqu'un qui m'a passé ce livre et j'ai hâte de découvrir ce grand écrivain français qu'en étranger, on ne connaît pas forcément. Là, on est beaucoup dans cet univers de la maison et je dirais que oui, c'est quelque chose qui malgré moi, revient assez souvent dans ma pratique. Je pense que c'est tout simplement parce que tout tard est en sorte autobiographique. Et quand on est quelqu'un qui a quitté sa maison familiale et en fait je suis en France sans ma famille, donc c'est des questions qui me travaillent de l'esprit et c'est aussi une source d'inspiration. Si je pense à des pièces précédentes, j'ai fait une cuisine pour la Biennale de Lyon en 2019. Il y a aussi eu un lit, une chambre à coucher avant. Ça, c'était en Corée, pour la Biennale de Busan. Donc, oui, je pense que c'est peut-être trop tôt pour en parler, parce que, comme chaque artiste, il y a tellement de choses qui sont cachées même de nous. Donc, on a nos propres intentions, mais les raisons plus larges se dévoilent dans le temps. Mais oui, clairement, il y a quelque chose là. The good Lord, my Lord.